c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un anneau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable. Votre programme présenté par les étudiants de l'ESJ Pro de Montpellier et de l'Université Paul Valéry. Je suis Arthur Noël, accompagné aujourd'hui de Lou Prestavoine. Bonjour Lou.
Bonjour Arthur et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans L'Autruche, nous nous sommes intéressés au sport à haut niveau. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver viennent de se terminer et que les Jeux Paralympiques ont commencé, nous nous sommes demandé comment les sportifs et sportives de haut niveau étaient formés ici à Montpellier. Comment sont-ils accompagnés physiquement, mentalement? Comment pratiquent-ils leur sport à haut niveau? Quelles conséquences pour leur quotidien?
Des questions donc et des réponses avec nos deux invités du jour, Louane Larami, joueuse au Montpellier Hero Rugby, et Fabien Cadet, coordinateur au pôle France Espoir Voile Occitanie. Dans cette émission, la santé mentale des sportifs et sportives sera aussi au cœur du reportage de Lou Prestavoine et de Romain Boisrobert. Et dans sa chronique, Julie Clément évoquera l'après. Que se passe-t-il pour ces athlètes après une compétition et après leur fin de carrière? Voilà pour le sommaire, j'espère que vous vous êtes bien échauffés, car l'émission va débuter. À vos marques, prêts, partez!
C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs!
L'autruche.
Bonjour à tous les deux, Fabien Cadet et Louane Larami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va commencer par poser des questions, chacun à votre tour. Donc on va commencer par vous, Fabien. Vous êtes coordinateur au Pôle Voile, vous suivez les jeunes athlètes, leur préparation physique en lien avec le CREPS. Et vous avez vous-même été sportif de haut niveau dans la voile. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience?
Alors mon expérience, elle est que ce sport, il demande beaucoup d'investissement et de temps sur l'eau. Pour un ordre d'idée aujourd'hui, un athlète en équipe de France, c'est entre 220 jours, on va dire, à peu près sur l'eau. Donc ça veut dire entre autres beaucoup de déplacements et donc ça suscite beaucoup d'aménagements, beaucoup d'entourage, un réseau solide pour que tout soit équilibré, pour que l'athlète puisse donner le meilleur de lui-même au moment voulu.
Et vous, Louane Larami, vous êtes joueuse de rugby, vous étiez en Guadeloupe avant d'intégrer le MHR en 2019. Quel a été votre parcours pour intégrer ce club? Est-ce que vous vivez du rugby aujourd'hui? À quel niveau vous jouez?
Bonjour déjà. Et mon parcours, il était un peu atypique parce que, comme vous le dites, je viens de Guadeloupe. Et en fait, il y a eu une sélection d'hommes-tomes, la toute première, qui a été organisée par Frédéric Pomarel. Et j'ai eu la chance de pouvoir y participer, de prendre le capitanat de cette sélection. Et par la suite, moi, je voulais partir de Guadeloupe parce que j'ai senti que j'avais fait le tour. Du coup, j'ai demandé à Fred s'il avait... 2-3 contacts, on va dire, pour pouvoir essayer de rentrer au rugby club de Montpellier. Et il a appuyé ma candidature pour rentrer à l'académie. Et je suis rentrée à l'académie en terminale. J'ai fait mon cursus en pôle à Montpellier. Et du coup, maintenant, ça fait 3-4 ans, on va dire, que je suis en senior au MHR féminin.
Et vous en vivez professionnellement du rugby?
Alors non. Non, en parallèle, je suis étudiante à la fac de médecine dans un master en recherche clinique. Donc on est rémunéré par le rugby, mais on n'en vit pas, non. On est semi-professionnel. En fait, certains clubs ont des contrats pro, mais pas au MHR. Voilà.
Et donc, vos journées sont rythmées par le sport. On voulait commencer par une première question de comment... vous avez su que c'était votre vocation, le milieu sportif, donc que ce soit le rugby pour toi, Louane, ou la voile pour vous. Vous pouvez commencer.
La voile, ça a été ça. Moi, j'ai commencé par le football. Donc d'abord, j'étais piqué par les sports co. Donc je m'y retrouve pas mal dans ce discours. Et puis ensuite, j'ai été piqué dans les années 80 par la planche à voile. Je ne l'ai plus quitté. Et ensuite, je me suis investi sur la planche olympique parce que la différence avec les autres sports, c'est que la planche olympique, tout le monde a le même matériel. et que c'est la personne qui fait la différence dessus, et que c'était moins une question de recherche matérielle, de technologie. Et puis, c'est moi, ce qui m'a guidé, c'est la liberté, c'est-à-dire que parcourir les plans d'eau, mon mentor, c'était Arnaud de Ronet, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais c'était un grand ingénieur qui a inventé et qui parcourait les océans avec sa propre planche à voile. Et donc, ça a toujours été, pour moi, une passion.
Et pour vous, Louane ?
Du coup, moi, c'est l'inverse. J'ai fait beaucoup de sports individuels quand j'étais jeune, natation. J'ai fait beaucoup de planches à voile aussi. Et un jour, j'en avais marre. Je me suis dit, j'aimerais bien essayer les sports co. J'étais déjà un peu addict au handball. Et mon père était dans le rugby depuis qu'il était jeune, on va dire. On est un peu dans une famille de rugbyman. Et j'ai décidé de commencer le rugby à 14 ans avec l'appui aussi de ma meilleure amie. Et du coup, je suis tombée vraiment amoureuse de ce sport et de toutes les valeurs qu'il apportait. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai toujours été sportive. Et le rugby, c'est... Bon, je pense qu'on sait quand on aime. Et là, j'ai su d'entrer. Donc, voilà.
Et quand est-ce que vous avez eu le déclic de vous dire que vous voulez en faire votre métier ?
Moi, en faire mon métier, je savais que ça allait être compliqué parce que je savais déjà que pour en faire son métier en France, on va dire qu'il faut un contrat avec la fédération pour pouvoir bien en vivre, on va dire. Mais devenir sportif de haut niveau, j'ai eu le déclic quand je vous ai parlé de cette sélection. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir autre chose et de pourquoi pas évoluer là-dedans, parce que mes proches m'appuyaient beaucoup et j'avais quand même beaucoup de soutien, donc je me suis dit je me lance, quoi, c'est tout.
Et justement, ici, sur cette sélection à Montpellier, vous aviez quelle image de la ville ? Est-ce que c'était une ville de rugby ? Est-ce que vous, au niveau équipement, c'est bien doté ?
J'avais une très belle image parce que quand je suis arrivée au club de Montpellier, le MHR féminin, c'est quand même 8 titres d'élite une. C'est une académie, c'est une section féminine qui est de plus en plus en développement. Donc j'avais un très bel œil, on va dire, en matière sportive. Après, sur la ville, mes parents ont vécu un petit peu à Montpellier. Donc je me suis dit, c'est la ville la plus au sud, c'est sûrement un peu la plus chaude. Donc celle qui se rapproche un peu plus du climat de la Guadeloupe. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi aussi.
Donc vous connaissiez déjà Montpellier avant de venir jouer ici ?
Un petit peu, mais vraiment pas tant que ça, quoi.
Ok.
Et entre BMEO, vous étiez avant, et ici, est-ce qu'il y a des différences dans la formation des athlètes ? Est-ce que vous avez remarqué ça ou c'est similairement pareil ?
Alors, je suis née à BMEO. Après, la Guadeloupe, c'est très petit. J'ai vécu à Sainte-Anne et j'ai évolué au rugby club du Levant, qui s'appelle comme ça maintenant. Et les infrastructures en Guadeloupe, au rugby, c'est très précaire. On a un terrain la moitié de l'année parce que pendant la saison des pluies, le terrain est à moitié inondé. Moi, j'ai pu, après ma deuxième année de rugby, intégrer le Krebs. Donc, je m'entraînais qu'avec les garçons. Il n'y avait aucune fille à l'époque au pôle espoir rugby en Guadeloupe. Là, ça a beaucoup évolué. Donc, c'est sûr que comparer la Guadeloupe et Montpellier, c'est pas comparable, on va dire. C'est incomparable. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites à Montpellier qu'en Guadeloupe.
Fabien Cadet, on l'a dit, vous êtes coordinateur au pôle voile. Mmh. Vous suivez donc les jeunes athlètes, leur préparation physique. Vous êtes en lien avec le Krebs. Alors, est-ce que Montpellier, c'est une région qui attire en voile ? Et est-ce qu'il y a des atouts, justement ?
Oui, oui, il y a d'énormes atouts. Il y a 220 km de côte. Il y a une région avec différents systèmes de vent, avec la tramontane, la fin du mistral qui arrive sur nous, le marin, c'est le sud-est qu'on voit quand il y a mauvais temps pour nous c'est des vagues et du bonheur. Donc c'est un terrain de jeu incroyable. D'ailleurs, il y a les plus grosses compétitions au monde qui sont là, comme le Défi Wing, comme le Mondial du Vent. Là, il y a bientôt l'Eurocup à Carnon avec le 29ers. Donc, on a un bassin, en fait, qui est idéal pour toutes les pratiques. Car ce qu'il faut voir, c'est que la voile, c'est beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, maintenant, ça se pratique sur des foils. C'est-à-dire que les bateaux ne touchent plus l'eau. Ils sont au-dessus de l'eau et ça va beaucoup plus vite. Donc, tout va plus vite, va plus loin. Donc, notre espace, en tout cas, notre terrain de jeu et notre stade à nous, il est incroyable. Ouais.
Et donc, on l'évoquait juste avant, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est le Krebs à Montpellier et quel est votre rôle au sein de toute l'organisation ?
Ok. Bah, le CREPS, c'est vraiment un centre de recherche et d'expertise, comme son nom l'indique. C'est là qu'il y a un peu tout le staff, on va dire, et toutes les connaissances et l'expertise pour tous les facteurs de la performance, qu'ils soient physiques, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient technologiques. On a, par exemple, dans la salle de préparation physique, une thermoroom, ce qu'on appelle, au CREPS de Montpellier. C'est assez spécifique à Montpellier. Ça permet de préparer les athlètes, comme nous, on l'a fait pour un athlète qui prépare un championnat du monde au Brésil, qui est pendant la période hivernale, de faire l'ensemble de ces séances de prépa physique dans la thermoroom avec l'humidité qu'il y aura au Brésil, la température qu'il y aura au Brésil, alors qu'ici faisait 10 degrés. Vous voyez, et ça habitue le corps pour éviter des surchauffes. Donc le CREPS, c'est ça. C'est tout plein de spécialistes, y compris aussi sur l'accompagnement du triple projet, car chaque athlète, pour pouvoir faire le volume que je vous disais, il a automatiquement des aménagements, que ce soit au lycée, au collège, mais aussi post-bac sur les universités. Et donc, pour avoir ces aménagements, il y a différentes personnes qui accompagnent ces athlètes pour qu'il y ait cet équilibre entre leur sport, le volume qui est demandé, la pression du sport, et puis la pression de leur projet, car tout le monde ne vit pas de sa pratique et qu'il y a besoin de construire aussi quelque chose de sécurisant à côté.
Et juste pour rebondir, parce que vous parliez de préparer les athlètes aux différentes...
Facteurs
extérieurs. Oui. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre faire de la voile au Brésil, par exemple, et faire de la voile ici à Carnon?
Oui, et puis même en France, dans différents endroits. En fait, ce qui fait la différence souvent, j'aime bien le dire comme ça, ce sont les femmes et les hommes qui sont présentes. C'est-à-dire, plus vous avez d'experts dans différents domaines, plus l'expertise, elle se fait à cet endroit-là. Si on va à Font-Romeu, ils ont une expertise dans le travail en altitude, qu'ils pratiquent depuis des années, l'accueil d'équipes d'athlètes. Donc voilà, dans différents secteurs, il y a ces vocations en fonction des personnes qu'on trouve. Et à Montpellier, il y a cette expertise dans le domaine physique, mais aussi des tests morphologiques. Il y a aussi l'accompagnement mental, il y a aussi l'accompagnement du triple projet. Donc il y a différents spécialistes dans ce domaine.
Et pour vous, Louen, quand vous suivez vos cours et vos entraînements, comment ça se passe, les adaptations?
Alors, en terminale, j'ai eu quand même pas mal d'adaptations parce que, comme je suis rentrée à l'académie, comme je vous ai dit plus tôt, on avait, on va dire, cours le matin jusqu'à midi et l'après-midi, on avait entraînement. C'était plutôt bien adapté. Après, là, j'ai passé qu'une année au lycée parce que je suis arrivée assez tard en France. Et en ce qui concerne la fac, on a juste le statut de sportif de haut niveau. Et on va dire qu'on a juste des dispenses en termes de TD. Si on ne peut pas être au TD parce qu'on a entraînement, on est dispensé. Mais ce n'est pas des réels aménagements d'emploi du temps, quoi. C'est nous qui aménageons notre propre emploi du temps. Et c'est nous qui devons rattraper les cours derrière. Donc... c'est un peu compliqué, mais ça fait 5 ans que je le fais et 5 ans que j'y arrive, donc ça va.
Alors on va parler donc de l'accompagnement et de l'entraînement des sportifs et des sportives. Et parmi tout ce qui est proposé, il y a notamment la santé mentale Lou.
Absolument, je suis allée avec Romain Bois-Robert à la rencontre de professionnels du milieu et des sportifs pour les questionner sur l'impact de la santé mentale dans le sport.
Toi, tu la gères bien, la pression. Je la bois.
Félix Lebrun.
Et regardez, ils vont mettre terminer par un nouvel essai.
La santé mentale, grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans la pratique sportive, la question du bien-être psychologique essaye de se faire une place centrale chez les athlètes de haut niveau. Pour en discuter, nous avons rencontré Baptiste Chérami, préparateur mental, ainsi que deux joueuses de rugby, Maë Lévy, qui est au Montpellier Hero Rugby, et Rose Bernadou, titulaire en équipe de France.
À la 77e, l'essai donc de la Montpellieraine Rose Bernadou. Under pressure.
L'essence de la préparation mentale, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est toujours intéressant, c'est toujours un truc à apprendre, quoi.
Ça s'est développé au fur et à mesure des années, parce qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup. Et on se rend compte aussi en travaillant dessus que c'est quelque chose qui est aussi dominant comme peut être le physique, comme peut être la technique dans le rugby. C'est aussi sur la mentalité, ça se développe. Under
pressure. Il va y avoir une base quand même qui va être transversale, beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de thèmes qui reviennent. Mais après, oui, il y aura peut-être des thématiques un peu plus précises en fonction des sports, dans le sens où, par exemple, le badminton, on est sur un sport individuel, le hockey sur un sport collectif, Donc, il va y avoir des choses qui vont être en jeu. Des fois, la préparation mentale, c'est perçu comme la sophrologie, alors qu'il y a 50 000 outils.
Pour avoir des séances avec un prépa mental, que ce soit collectivement ou individuellement, après, on peut avoir plusieurs exercices comme de l'imagerie. Tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des superstitions. Il faut les tresses comme ça, ce chouchou-là, ces sous-vêtements ou des sous-shorts. Il y a des filles de l'équipe, si elles n'ont pas leurs sous-shorts qu'elles ont d'habitude, elles vont y penser pendant le match. Pour certaines, c'est vraiment très important.
Il va y avoir la notion de blessure où ça va être compliqué pour les joueurs parce qu'ils vont se sentir un peu à l'écart du groupe, au-delà de la blessure en tant que telle qui les arrête. On voit forcément la blessure comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'est pas forcément négatif parce que ça peut permettre d'avoir une remise en cause.
Ow ! Je me suis blessée il y a 2 ans à peu près. Et c'est la première fois qu'on m'a demandé, mais est-ce qu'à ce moment-là, mentalement, ça allait ? Et en fait, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que c'était un facteur. C'est un moment où ça allait pas trop mentalement. J'avais beaucoup de pression, j'étais fatiguée, stressée, plus vulnérable en fait à la blessure. Et moi, je m'étais fait opérer des deux chevilles il y a 2 ans de ça, suite à beaucoup de blessures à répétition. Donc, je me suis pas posé la question comme Maë, mentalement, si c'était à cause de ma tête. J'ai pleuré de soulagement quand je me suis fait opérer les chevilles parce qu'en fait, j'en pouvais plus physiquement, mentalement. T'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, t'as hallucination dans un mois, tu sais pas si ça va tenir.
La préparation mentale, ça peut être par exemple un joueur qui avait des problèmes d'attention, dans le sens où sur un match, pour lui, c'était compliqué d'être concentré à 100%, ou en tout cas sur tout un match, il pouvait rester concentré un point et 3-4 points d'après, plus rien. Et donc via des exercices, ça a été bénéfique là-dessus. Il arrive à rester concentré beaucoup plus longtemps.
La question de la santé mentale s'est énormément développée ces dernières années grâce à différents acteurs.
Mine de rien, je pense qu'avec l'exposition, avec les JO, ça aide aussi, parce que les gens, ils se posent un peu plus la question de peut-être qu'eux aussi, ils ont besoin de ça, on en parle plus. Il y a encore des clichés, mais c'est de moins en moins le cas et c'est moins tabou.
Je pense que c'est venu de l'équipe de France. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Et comme nous, on voyait que ça marchait, on a voulu l'apporter dans les clubs. Et ça a de suite cet apaisement. Des fois, tu sors, t'es pas lucide, t'es complètement oxy. Pour avoir l'attention des joueuses, tu te dis, OK, on prend juste 2 minutes, on fait 2 respis. Comme ça, au moins, tout le monde est connecté, tout le monde est concentré. Et on voit que ça marche. Prenez soin de votre santé mentale, c'est important en vrai.
Merci Lou et Romain pour ce reportage sur un sujet important. Alors Louen Laramie, on a entendu vos coéquipières. Est-ce que la santé mentale, ça peut influencer votre façon de jouer ?
Moi, j'ai pas de doute sur cette question parce que il y a 2 ans, je suis sortie du... j'ai passé une saison horrible. Il y a 2 ans, on avait un coach avec qui ça se passait très très mal et... Surtout avec 2-3 joueuses de l'équipe et j'en faisais partie. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Je le voyais sur mes performances sportives. Je ne performais plus sur le terrain. J'y arrivais pas. Il n'y a qu'à la fin de l'année où je me suis dit, libère-toi. Au pire, c'est qu'un sport. Et j'ai réussi à être un peu plus performante. Et après ce burn-out, j'ai décidé de partir 1 an en Australie pour découvrir autre chose. J'ai arrêté le sport pendant 8 mois et je me suis dit, ça fait du bien. Je me suis reposée mentalement et à Sydney, j'ai repris le rugby au club des East. Et après 8 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste un sport, qu'il ne faut pas se mettre de la pression dessus et qu'il faut juste trouver de l'amusement dedans. Et j'ai rappelé mon coach... Stéphane Ferrière, parce que j'ai entendu dire qu'il reprenait le relais à Montpellier et avec lui, ça s'est toujours bien passé. Donc, je l'ai rappelé pour lui demander si, pourquoi pas retester cette année, parce que je suis partie quand même sur un mauvais souvenir et le rugby, c'est passionnel, c'est mon sport, je l'aime à mourir, quoi. Donc, j'ai voulu reprendre pour me redonner une chance et repartir... libérée et en fait ça se voit, je suis revenue beaucoup plus performante alors que j'ai pas fait de rugby pendant 8 mois. J'en ai fait 2 mois en Australie avec dans un niveau inférieur, donc la santé mentale c'est hyper important et je pense qu'il faut surtout se dire que dans chaque sport il faut réussir à trouver le plaisir dedans pour pouvoir être performant. Il faut pas se mettre de la pression en fait. Le sport ça a été inventé avant tout pour pour se libérer, pour libérer la dopamine, pour s'amuser, pour se retrouver après une journée de taf, on avait la tête dans le seau, juste pour se libérer. Et en fait, faut garder ça en tête. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler maintenant, parce que c'est vrai que c'était un sujet assez tabou à l'époque. Et plus on en parle, plus ça se démocratise, et plus les gens en prennent conscience, et plus on devient performant, quoi.
Et vous, Fabien, vu que vous êtes préparateur, comment est-ce que vous gérez justement ces athlètes et cet aspect psychologique dans le sport, et notamment dans la voile ?
Oui, bah c'est assez simple. Une fois qu'on est formé, comme moi, au coaching mental et à la préparation mentale, j'accompagne donc des athlètes et des entraîneurs. Sur beaucoup l'équilibre, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'accompagnement du projet. Donc j'ai inventé un outil qui s'appelle Friston Projet, qui permet à l'athlète complètement de visualiser son projet professionnel, son projet sportif, mais son projet personnel. Car souvent les entraîneurs ont tendance à, et je travaille beaucoup sur la formation de la relation entraîné-entraîneur, qui pour moi est fondamentale aussi dans la préparation mentale. On parle beaucoup de préparation mentale en one-to-one avec l'athlète, mais l'athlète il vit dans un environnement, donc souvent il faut associer l'environnement aussi à la préparation de l'athlète, parce que ça fait partie, c'est des fois de là d'ailleurs que se créent des petits conflits, des petites choses qui sont désagréables pour l'athlète. Et puis bah, tant qu'il y a cet équilibre, l'athlète il est dans le plaisir, il est dans l'amusement, il est, même s'il y a toute cette pression autour, il peut continuer à s'amuser, à faire ce qu'il aime faire. Et c'est ça la préparation mentale, c'est permettre à l'athlète d'être en parfait équilibre dans ce qu'il a envie de faire. Donc c'est un suivi qui est quotidien, c'est souvent des formes de contrats. Et l'idée c'est de rendre l'athlète autonome, c'est-à-dire que le but d'un préparateur mental ou dans l'accompagnement, c'est pas d'être sans arrêt présent. L'idée c'est que l'athlète ait ses propres outils après pour lui-même lorsqu'il a un match. Et nous sur l'eau, on n'a pas de coaching direct comme dans certains sports où l'entraîneur peut être au bord du terrain. Nous ils sont sur Rose Zodiac, et même sur Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle une box pour les entraîneurs, et ils n'ont pas le droit de sortir de cette box. Et donc ils regardent les coureurs de loin, mais ils ne voient à peine ce qui se passe des fois dans les manches, donc dans les courses. Donc ça veut dire que l'athlète est seul face à lui-même, face à la performance, et donc il doit trouver lui-même ses propres solutions, ses propres adaptations, faire ce qu'il a à faire, et donc gérer ses problématiques qu'il gère, qu'ils soient ses émotions ou ce qui lui arrive. Et donc on aide ça, on aide l'athlète à être plus autonome face à ce qui se passe. Mais ce qu'il réalise, ce qui est important dans ce que je viens d'entendre, c'est ce qu'il réalise dans le sport, c'est valable dans sa vie après. C'est-à-dire que tout ce qu'il construit dans le sport, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi je travaille beaucoup chez les jeunes jusqu'à 19 ans au post-bac, et après ils prennent la direction soit du sport de haut niveau, soit de leur profession de haut niveau. Mais dans les deux cas, ça les aide, parce qu'ils vont retrouver les mêmes situations dans le milieu professionnel ou de vie perso.
Pour rester dans cet aspect psychologique du sport, Julie Clément s'est intéressée à ce que ressentent les sportifs et les sportives après une défaite en compétition et le ressenti une fois leur carrière terminée.
Mesdames et messieurs, bonjour. Quand cela arrive, on se dit que c'est un mauvais rêve et que l'on va se réveiller. C'est une période de deuil, on perd une partie de nous. Voici les mots de Mathilde Gros, championne du monde de vitesse individuelle en 2022, repartie sans médaille des JO de Paris 2024. Cette phrase résume ce que l'on ne voit presque jamais à l'écran, le coût humain du sport de haut niveau. On voit les podiums, les médailles, mais beaucoup moins les années passées dans un tunnel à construire une identité résumée à une performance, un chrono ou voire même un classement. La pression vient du staff, des fédés, des sponsors et aujourd'hui des réseaux sociaux qui commentent chaque geste, chaque victoire et surtout chaque échec en temps réel. Ces dernières années, certains champions ont osé dire stop, à l'image de Simone Biles qui, en plein jeu, préfère se retirer d'une finale afin de préserver sa santé mentale, refusant de sacrifier corps et esprit. D'autres ont mis des mots sur cette pression permanente, sur la peur de décevoir, sur cette défaite qui reste en travers de la gorge. On se souvient de l'engouement autour de la gymnaste française Mélanie De Jesus Dos Santos au JO 2024. Pas de qualification finale, pas de médaille, mais une question qui revient souvent dans ses prises de parole « et après ?». Car oui, que reste-t-il après une jeunesse rythmée par les entraînements, les stages, les compétitions, quand la lumière se baisse et que la routine normale peine à exister? La retraite sportive, ce n'est pas seulement arrêter de s'entraîner, c'est perdre un statut, une raison de se lever le matin, un cadre. Certains parlent d'un saut dans le vide, d'autres d'une deuxième vie à inventer. Certains trouvent un nouvel équilibre en devenant entraîneur, comme Laure Manaudou qui a longtemps accompagné de jeunes nageurs après sa carrière. D'autres reprennent leurs études, à l'image de Renaud Lavilloni, revenu sur les bancs de la fac pour préparer sa reconversion. Et puis il y a ceux qui s'engagent, comme l'ancien rugbyman Sébastien Boyle, investi dans son association Les Colosses au pied d'argile, qui lutte contre les violences en milieu sportif. Mais beaucoup, après l'adrénaline des compétitions, se retrouvent face à un grand vide. Alors comment accompagner ces trajectoires, ces rêves parfois brisés, ces reconversions forcées ou choisies? Comment faire en sorte que la fin d'une carrière ou même d'un rêve de carrière ne ressemble pas à une chute mais à un nouveau départ? Peut-être que la vraie question pour le sport de haut niveau aujourd'hui, ce n'est plus seulement comment fabriquer des champions, mais bien que fait-on des championnes et des champions après?
Merci beaucoup Julie Clément pour cette chronique. Alors Fabien Cadet, justement, comment en tant qu'entraîneur on peut accompagner un sportif ou une sportive après une compétition où l'athlète a rien gagné?
Il y a la gestion d'échecs. Alors je peux vous inviter, sportive, entraîneur, à aller consulter les mementos du CREPS. On travaille beaucoup avec des psychologues, des entraîneurs et on fait des émissions. On vient de faire un focus justement sur comment gérer l'échec. Moi, en tout cas, ma touch à moi, c'est Frise ton projet. Je vous ai parlé de cet outil. L'outil, il permet quoi? Il permet d'aller chercher son rêve, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rêve? Qu'est-ce que je fais de toute cette construction et où elle m'amène? Parce que si on gagne quelque chose, c'est peut-être aussi pour s'en servir demain et après-demain. Et de quelle manière je vais me servir de tout ce que j'ai construit? Alors, on a entendu, il y en a qui se sont servis par des causes qui leur sont propres. Soit c'est la violence, d'autres, ça va être de créer une entreprise, une marque. D'autres, ça va être d'entraîner parce qu'ils ont envie de retransmettre leur passion. Chacun va trouver sa voie, mais l'idée, c'est de ne pas être dans l'urgence. Et donc, qui dit pas dans l'urgence, ça veut dire que quand on travaille avec un athlète, une fois que tu as gagné ton championnat du monde et que tu as ton Graal, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, c'est ça l'accompagnement en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois de faire? Qu'est-ce que tu prévois de construire un an après ça, puis 2 ans après, puis 3 ans après? C'est assez simple comme question, mais tant qu'on ne les pose pas, finalement l'athlète, lui, il n'a qu'une chose en vie. On parlait de tunnel, bah effectivement, c'est le tunnel, la médaille, et eux, ils ne voient que ça, puisque c'est leur Graal. Mais il faut leur permettre de voir un peu plus loin, parce qu'il y a un après, quoi qu'il arrive. Donc il faut juste préparer cet après, en parler. Et donc quand il y a des échecs, c'est un peu la même chose. C'est comment tu te sers de ce qui vient de t'arriver pour ce qui va se passer après. Car si on est focus que sur l'échec, on va voir que l'obstacle. Et quand on voit que l'obstacle, on est tourné en mode négatif, ça veut dire qu'on ne voit plus ce qu'il y a après. Vous voyez, on voit que le problème, en fait. Et du coup, la préparation mentale sert à ça. Elle sert à tourner le regard, à regarder au-delà de l'obstacle pour revoir l'objectif et non pas de se dire bah, « j'ai ce problème, j'y arrive pas ». Ok, c'est comment je peux y arriver et qu'est-ce que je peux essayer de nouveau, d'une autre manière peut-être, pour accéder à une réussite ou une forme de réussite à cet endroit-là. Ce ne sera pas la parfaite réussite, mais peut-être qu'il y aura un progrès à cet endroit-là. Et l'idée, c'est ça, c'est de se servir de nos échecs. L'apprentissage, c'est de laisser erreur. Donc ça veut dire que plus j'essaye, plus je fais des erreurs et plus j'apprends. Bon, bah, c'est un peu la même philosophie.
Louane, j'aimerais vous faire rebondir sur ces propos. Justement, est-ce que vous arrivez à vous projeter sur le après, après le rugby, après votre carrière, après cet univers sportif?
Oui et non, parce que je suis en plein dedans, j'ai 23 ans, je suis à la fleur de l'âge, on va dire, donc je vois pas... En fait, c'est que cette année en Australie, ça a tout changé pour moi, genre, j'ai plus le même mindset, je vois plus le sport de haut niveau de la même manière, je vois vraiment de l'amusement, de profiter, de rigoler à l'entraînement, de perdre quand il faut perdre, gagner quand il faut gagner, parce que le sport c'est ça aussi, c'est des défaites et des fois tu vas plus te souvenir de tes défaites que de tes victoires parce que c'est comme ça, tu l'auras dur quoi. Et moi j'ai pas forcément je vis au jour le jour, j'ai décidé de vivre comme ça en ce moment parce que je trouve que ça me va en fait et pour l'instant je vois pas l'après parce que de toute façon je vis pas du rugby, c'est quelque chose que j'ai à côté. Là, pour l'instant, je suis plus centrée sur mes études et j'ai le rugby à côté. C'est comme ça que nous, on fonctionne parce qu'on n'est pas rémunéré. C'est très dur d'être rémunéré en ce moment, enfin, chez les filles. Ça évolue, mais c'est encore très, très dur. Donc, j'ai cette chance aussi parce que du coup, c'est une chance d'être plus concentrée sur mes études et d'avoir le rugby à côté. Et c'est pour ça que c'est important, comme je disais, de prendre ce sport comme de l'amusement et pas comme un stress en plus parce que ça sert à rien d'être stressé sur les études et en plus aller le soir à l'entraînement de 18h à 21h et d'être stressé c'est ridicule donc j'ai pas de regard sur ma retraite parce que je compte pas la prendre maintenant, quoi.
Merci à tous les deux. On arrive au terme de cette émission. Merci Fabien Cadet. On le rappelle, vous êtes coordinateur et entraîneur au Pôle France et Espoir Voile Occitanie. D'ailleurs, merci. Le Pôle Voile co-organise l'Eurocup 29ers à Carnon du 1er au 5 avril.
C'est ça.
C'est bien ça.
Et merci à merci. Vous aussi, Louane Larami.
Merci à vous.
Centre, donc vous êtes centre au MHR, au club de rugby. Et on vous retrouvera sur le terrain en première division, donc l'élite 1, le 15 mars, notamment au stade Sabaté, face à l'AC Bobigny. C'est ça ?
Voilà. Et n'hésitez pas à prendre vos places. C'est pas très cher, c'est 5 euros. Ça nous permettra d'être rémunérés après, quoi.
Il est maintenant temps de déhausser ses crampons et d'aller s'étirer, car l'émission est terminée. Merci d'avoir... de nous avoir écoutés. Merci aussi à toute l'équipe de Radio Divergence pour avoir assuré la réalisation de cette émission. C'était Arthur Noël et Lou Prestavoine pour l'Autruche.
Merci.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère aux volatiles vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! T'es embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs !
L'autruche.